Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, on m'a demandé de présider cette séance et je remercie l'abbé Laurence qui a organisé cette séance avec M. Brancourt qui n'est pas encore arrivé, mais il est régulièrement en retard. Alors donc, ne l'attendons pas et commençons nos travaux sous l'égide donc de l'Institut universitaire Saint-Pie-X qui... Vous avez reçu la convocation, s'est mis sous, je dirais, la houlette de Pie IX, qui conseillait de célébrer la mémoire de Christophe Colomb, et nous allons voir quelques aperçus, quelques domaines qui ont souvent été traités, mais qui vont être, je l'espère, envisagés sous un angle nouveau. Ce matin, nous avons écouté trois communications. Nous ferons une pause après ma propre communication, mais à l'instant même, nous allons écouter M. Jean-Paul Le Flem, maître de conférence à Paris 4, qui va nous parler du climat religieux sous le règne des rois catholiques. Mon cher collègue, si vous voulez venir. Qu'est-ce qu'il y a ?
Ça va, on m'entend. Si on ne m'entend pas, remarquez, je peux parler. Monsieur le Président, Monsieur le Recteur et mes chers amis, quand je dis mes chers amis, j'ai une pensée particulière pour les élèves de Saint-Pie-X que je fais souffrir sur les consoles d'informatique le mardi après-midi. Je dirais que dominer non sum dignus pour traiter le sujet qui m'a été posé parce que je ne suis pas plutôt un historien économiste qu'historien de la religion, mais ça fait 30 ans que je vis dans l'Espagne et comme tout espagnol, eh bien, j'ai été baigné par les problèmes religieux. Et si vous voulez, dans cette commémoration de 1492, sur laquelle pas mal de cloportes s'étendent à l'heure actuelle, on a oublié, je crois, un aspect essentiel, c'est l'aspect religieux. C'est pour ça que je crois qu'il est intéressant de voir quel était le climat religieux sous les rois catholiques. Évidemment, en 1474, je dirais que le politique et les troubles du règne d'Henri IV ont obscurci l'aspect religieux, mais il va revenir à la surface, et ceci dès les années 1480, mais il a toujours existé. J'orienterai ma méditation autour de trois thèmes. D'abord, l'esprit de réforme dans l'Église qui débouche et qui réanime, qui débouche sur l'esprit de croisade et qui le réanime. Et à ce propos, je citerai quand même, j'évoquerai les grands travaux sur la croisade et l'esprit de croisade au XVIe siècle d'Alphonse Dupron, créateur de Paris IV en 1969 contre les Hordes Rouges. Dans un deuxième aspect, j'envisagerai l'unité religieuse qui est au cœur de la politique des rois catholiques et qui découle de cet esprit de croisade. Et en main, si vous voulez... telle troupe, tel chef, ou tel chef plutôt telle troupe, j'évoquerai les trois grandes figures de cardinaux qui ont mené diriger l'Église espagnole tout au long des règnes des rois catholiques, c'est-à-dire de 1474 jusqu'à 1516. J'évoquerai la figure de Mendoza, du grand cardinal Mendoza, de Hernando de Talavera, et enfin, de cet autre grand homme du début du XVIe siècle espagnol, qui est le cardinal de Cisneros, fondateur de l'université d'Alcalá. Voyons d'abord l'esprit de réforme et l'esprit de croisade. Eh bien, il y a eu des phénomènes tout intéressants autour du XVe siècle, mais en particulier, vous allez dire que je suis chauvin, mais il y a un prototype du Concile de Trente, qui est mal connu, mais qui s'est passé dans ma terre ségovienne. Sous l'égide du cardinal du futur cardinal, il est évêque à ce moment-là, Don Juan Arias d'Avila, d'origine juive par sa mère, eh bien, un concile est tenu à Águila Fuente, au nord de Ségovie, du 1er au 12 juin 1472. Il a été publié par le président de la Société des bibliophiles espagnols, Carlos Romero de Lecea, qui est en même temps, qui fut longtemps syndic des agents de change à la Bourse de Madrid. Vous voyez que l'image, j'imagine mal, un syndic des agents de change français publié un concile de 1472. Et en particulier, ce qui est émouvant, c'est que la publication de ce concile a été faite selon les règles de l'imprimerie de Jean Gutenberg, et ce serait probablement, Carlos Romero l'a démontré à peu près définitivement, serait le premier livre imprimé en Espagne. Que décide ce concile d'Águila Fuente, où participent tous les archiprêtres du diocèse de Ségovie, mais aussi des laïcs. Des laïcs dont certains sont auditeurs à l'audience royale, dont certains sont les alcaldes, c'est-à-dire les juges-maires des différents gros bourgs du diocèse. Alors, il prévoit d'abord une élévation du niveau d'études du clergé. Et ça, il insiste. C'est-à-dire qu'il prévoit, au fond, l'élaboration d'un séminaire tel qu'on le trouvera, par exemple, du côté de La Rochelle, selon les études perpéroises, seulement au XVIIe siècle en France. C'est-à-dire que, à tour de rôle, tout le clergé du diocèse de Ségovie devra venir suivre des cours spécialisés à l'évêché pendant un mois, pendant deux mois. Et on envisage, nous sommes en 1472, et on envisage pour les jeunes prêtres, ceux qui se destinent au sacerdoce, un séjour plus longtemps. Il y en aura même à la fin du règne de l'évêque Arias d'Avila, il y aura des gens qui resteront plus d'un an à faire des études. Les études, alors c'est surtout des études sur le thomisme, sur Dun Scot et sur le nominalisme. Ce sont des études théologiennes, mais aussi des études de pastoral, mais aussi des études sur le catéchisme. Et alors, il y a toute une floraison dans les diocèses espagnols, sous les rois catholiques, de catéchisme à l'usage des fidèles. Il y en aura même à l'usage des musulmans lorsque le royaume de Grenade, j'en viendrai, sera confié. Autre chose que l'on trouve dans le concile d'Águila Fuente, après cette élévation du niveau culturel des clercs, c'est un retour à la dignité. Un retour à la dignité dans la vie et dans les mœurs. Et en particulier, on insiste sur la dignité du costume. Je résume, hein, parce que ce texte est fondamental. Et puis surtout, il y a la dernière partie du concile d'Águila Fuente, du synode d'Águila Fuente, est consacrée à la pureté de la liturgie. Et en particulier, une liturgie qui se focalise sur la Trinité. Et nous en parlerons avec Christophe Colomb, s'il y a une île en Amérique qui s'appelle la Trinité, c'est que cela découle d'une pensée théologique espagnole. Alors voilà ce concile d'Águila Fuente. Alors vous me direz, parce que je travaille sur Ségovie, j'ai fait du chauvinisme ségovien. Je vous répondrai que d'abord, la théologie ségovienne a été prépondérante même au concile de Trente. Que deuxièmement, Arias d'Avila a eu la charge d'être le modérateur de deux conciles, l'un de Tolède, celui de Tolède, convoqué par l'évêque Alfonso Carrillo, qui a été le grand conseiller des rois catholiques avant leur avènement, en 1473. Et il y a un concile national en 1478, convoqué par Don Pedro González de Mendoza, le futur cardinal, concile national réuni à Séville, dont le modérateur est l'évêque Arias d'Avila. Alors, je vous ai apporté ça, vous demandez s'il y avait du nouveau, je dirais pas grand-chose de nouveau, mais je crois que ce concile d'Águila Fuente est méconnu, et c'est vraiment une des racines profondes du concile de Trente. Alors, deuxièmement, dans le climat religieux de cette époque, il y a une grande querelle qui a débuté à la fin du XIVe siècle. Dans les années 1380, c'est ce qu'on appelle la querelle des observants et des conventuels. Et querelle qui dure toujours chez les carmélites avec le fameux bref pontifical de l'année dernière, autorisant les carmélites du Cerro de Los Angeles, menés par la mère supérieure Maravillas, qui est une femme admirable, à observer la règle de Sainte-Thérèse. Évidemment, les carmes français, les responsables des carmes français, ont dit que c'était tout à fait réactionnaire. Bon. Et alors, cette querelle que j'évoque à l'heure actuelle, c'est la vieille querelle que l'on trouve tout au long du XVe siècle espagnol. Alors, quelle est-elle? C'est d'imposer aux gens un retour, non pas à la règle primitive, comme on l'a dit, à la lettre, mais dans l'esprit de la règle primitive, c'est-à-dire plus de sainteté, plus de pauvreté et plus de science. Il faut dire qu'il y a un mouvement universitaire, l'Espagne a vécu, et même encore jusqu'au jour, c'est une tradition un peu différente de la nôtre, a vécu auprès de ces universités, et disons qu'elle les a promues. Et il y a un mouvement universitaire très fort dans l'Espagne du XVe siècle, dont les leaders sont l'université de Salamanque et l'université de Valladolid, qui sera rejoint en 1507 par l'université d'Alcala. Alors, quelques jalons dans cette réforme, dans cette réforme issue de la critique entre conventuel et observant, c'est en 1590 la fondation bénédictine de Saint-Benoît à Valladolid. C'est aussi autre phénomène important et qui a été occulté dans le magma anticolonialiste de 1492, c'est la fondation 1492 de l'abbaye, la grande abbaye bénédictine de Montserrat. Montserrat qui relaie une abbaye qui était avant, mais alors qui sera fondée selon le rite des observants. Et vous avez ensuite, en 1587, trois ans avant, c'est le début du renouveau franciscain, c'est la consécration du renouveau franciscain qui est consacrée par la fondation par Pedro de Villacreces du couvent de la Salceda en Alcaria, c'est à l'est de Madrid, non loin d'Alcala et non loin de Pastrana où Sainte-Thérèse fondera un couvent non pas mixte mais où il y aura à la fois des carmes et des carmélites. Donc il y a toute une fondation, tout un renouveau catholique dans les monastères et surtout chez les franciscains. Et ça, c'est fondamental parce que Christophe Colomb sera, comme l'a démontré Alain Milloux et le professeur Hertz dans son livre Christophe Colomb est un des produits, au point de vue de la pensée, est un produit du renouveau franciscain. Et en particulier, c'est le monastère de la Rábida est un haut lieu de la réforme franciscaine à la fin du XVe siècle. Et puis, il y a, si vous voulez, alors dans cette réforme franciscaine, il y a un homme qui va mettre la main à la pâte, et assez brutalement, à sa manière, c'est le cardinal de Cisneros, qui en 1496, avant d'arriver au pouvoir politique, est prieur de ce couvent de la Salceda. Et dans ce contexte, de résurgence catholique, avec un temps fort, si vous voulez, dans les monastères, se place le voyage de Christophe Colomb. Je ne vais pas épiloguer sur la découverte, mais je voudrais épiloguer sur la symbolique théologique dans la nouvelle géographie de la découverte. Et il y a trois noms qui me semblent fondamentaux. C'est El Salvador, le Sauveur. C'est La Trinidad, la Trinité. Et c'est Guadalupe. Le Sauveur, c'est le Christ souffrant, issu de la mystique flamande de Thomas Kempis, qui est au cœur de toute la pensée mystique de la fin du XVe siècle en Espagne. Et qui se traduit déjà par ces Christ musclés mais douloureux. C'est la souffrance du Christ et le mystère de la rédemption sur lequel on insiste. Deuxième chose, c'est la Trinité. Et là aussi, qu'il soit thomiste, qu'il soit nominaliste ou scotiste, tous les théologiens, les professeurs de théologie des universités espagnoles se rejoignent pour une méditation fondamentale sur la Trinité. Avec, du reste, dans les livres quoi, de théologie, j'en ai pas lu beaucoup, mais j'en ai lu quelques-uns, il y a tout un courant qui privilégie l'Esprit Saint qui commence. C'est intéressant. Et on aura, comme représentant de cette tendance et méditation sur la Trinité, les deux frères coronels qui sont venus au Collège Montaigu à Paris, qui sont ségoviens d'origine et juifs également par leur parole. Troisième thème, on dirait quand il restera à la troisième thème, c'est la Vierge de Guadeloupe. Et alors là, je crois peut-être vous apporter un peu de nouveau, pas beaucoup, mais un peu de nouveau. La Vierge Guadeloupe en Espagne, c'est un sanctuaire hiéronymite, donc d'un des ordres prestigieux, mais c'est aussi un sanctuaire, le grand sanctuaire de la Mesta, des transhumants. Et on s'aperçoit, en regardant les documents sur la Mesta, que le culte de l'Immaculée Conception va être promu par cette institution de pasteurs transhumants. Le dogme de l'Immaculée Conception sera officiel dans l'Espagne de Philippe III, c'est-à-dire au début du XVIIe siècle. Mais il y a eu toutes les racines, et les racines sont profondes. Je remonte jusqu'au XVe à l'heure actuelle, et j'espère peut-être un jour remonter au XIVe, mais à tel point que la Mesta, dans les années 1580, mais ça prouve que la tradition était bien ancrée, va payer des théologiens pour écrire des livres sur le dogme de l'Immaculée Conception. Et le dogme de l'Immaculée Conception est au cœur de la pensée religieuse espagnole et de la dévotion populaire au XVIe siècle. Et si la grande patronne de Mexico s'appelle Guadalupe, c'est parce que la Guadalupe mexicaine est fille de cette Vierge à la consonance arabe, parce que Guadalupe, c'est Guadalupe, hein, qui est issue de la vieille tradition de la reconquête, et qui sera interprétée, évidemment, peut-être avec abus, au XVIe siècle, lors des statuts de pureté de sang, comme un dogme de la pureté du catholique face au catholique impur. Avec de possibles déviations raciales, mais qui sont très rares. J'y reviens. Deuxième problème, c'est le problème de l'unité religieuse qui découle de l'esprit de croisade. En effet, dans le livre de M. Attali et quelques autres, les méditations de la conférence épiscopale française à l'heure actuelle, on oublie une chose, c'est que la croisade espagnole, pour faire la croisade, il faut avoir un ennemi en face, et que les Espagnols ont un ennemi. Il y a eu la chute de Constantinople, et les gens d'Andalousie voient les corsaires qui viennent les bandits d'Alger, bien qui viennent ravager les côtes andalouses, et puis il y a toujours ce royaume de Grenade qui est tributaire, certes, de la Castille, mais enfin, qui pose des problèmes, et il y a une volonté politique, une fois l'ordre rétabli à l'intérieur du royaume et les affaires avec les Portugais réglées, il y a une volonté systématique d'achever la croisade et de donner et de faire l'unité du royaume. Alors, vous savez, il y aura en 1492 la prise de l'Alhambra. Et avec un traité, et ça on ne trouve pas beaucoup dans les historiens français, un traité de vassalité du roi Abencerrage, mais qui le traite comme un vassal fidèle, permettant à lui et à ses sujets de continuer de pratiquer la religion. Bon, après il y aura évidemment, il y aura le choc politique que s'accentuera. Bouabdine ne respectera pas les traités, donc évidemment, il y a toujours des faucons et des colombes dans un gouvernement, c'est vrai, du temps des rois catholiques, et disons que ce sont les faucons qui triompheront. Et à juste titre, parce que il y a une guérilla qui commence dans la Sierra de Grenade, l'Alpujarra, et qui va être intermittente jusqu'à l'expulsion des Morisques en 1609. Alors, comme pour découler de cette unité religieuse qui est désirée, parce que l'unité religieuse conditionne l'unité politique et la solidité de la couronne, il y a l'expulsion des Juifs et la répression sur les Morisques. Alors, sur les Juifs, c'est un sujet tabou dans l'université française, mais Dieu merci, les universitaires espagnols parlent, je ne dis pas de manière décontractée, mais enfin, parlent avec une certaine sérénité de l'expulsion des Juifs. D'abord, qui est à l'origine de l'expulsion des Juifs? Sinon, des gens d'origine juive et convertis. Et il y a, dans la pensée juive du XVe siècle, qui est assez bien étudiée, il y a, si vous voulez, une agressivité de la part des Israélites non convertis. Et une lutte entre les Juifs convertis au catholicisme et les Juifs non convertis au catholicisme. Alors, je reviens quelque peu en arrière. En 1380, à la faveur de la peste noire, il y a eu un mouvement contre les Juifs, non pas du reste parce qu'ils étaient Juifs, mais parce qu'ils avaient entre les mains les finances de l'État et de l'Église. Et je me réjouis beaucoup du travail de comptabilité qu'ils ont fait à Ségovie, parce que c'est grâce à eux que j'ai une superbe mercuriale. Mais enfin, au temps d'Arias Davila, les gens qui perçoivent les dîmes de l'Église, c'est Jacob Ben Yuda, Isaac Abrabanel, etc., qui s'appelleront, du reste certains s'appelleront Francisco Lopez après 1492. Et dans ce climat de retour aux sources bibliques, avec des études sur la Bible qu'utilisera Cisneros quand il fera la Bible polyglotte en 1506, dans ce climat, il y a des Juifs convertis qui accusent leurs anciens coreligionnaires. Et vous avez, au milieu du siècle, le fameux Fortalecium Fidei, suivi d'un autre sur la défense de la foi chrétienne, dont je vais vous lire un court passage que cite Joseph Pérez dans son excellent livre sur les rois catholiques. C'est à la page 328. Alors, il s'agit de Alphonse de Carthagène, qui est un franciscain et qui a fait un Defensorium Unitatis Christianis. Et voici ce qu'il dit. S'il se trouve un nouveau chrétien qui se conduise mal, il faut le châtier cruellement. Et je serai le premier à porter du bois au bûcher. C'est moi-même qui mettrai le feu. J'ajoute que si le coupable est un ancien israélite, il faudra le punir plus sévèrement et plus cruellement, puisqu'il pêche en toute connaissance de cause, car il est mieux placé que d'autres pour connaître la loi des prophètes. J'ajoute alors que de ce mouvement va naître la création de l'Inquisition qui s'établit à partir de 1482, après un bref de Sixte IV donnant les pleins pouvoirs pour l'établir, qui date de 1476. Du reste, la papauté a été assez réticente, parce qu'il faut dire que la monarchie espagnole a toujours fait un peu peur au Vatican par sa rigueur catholique. Et alors, il y a l'établissement de l'Inquisition. D'abord, c'est l'établissement de l'Inquisition officielle comme organe du pouvoir. Voilà ce dont il s'agit, car l'Inquisition a toujours existé. Je vois à l'heure actuelle, on nous dit « Ah, c'est les Espagnols, ils ont établi l'Inquisition ». C'est absolument faux. L'évêque, quand il est sacré, a le devoir d'inquisition et a le pouvoir d'inquisition. Et l'autre jour, je disais à un ami progressiste bien pensant, à propos de Monseigneur de Courtrai, qui est une de nos vedettes à l'heure actuelle, je dis dans l'affaire Touvier, il a exercé son pouvoir d'inquisition. Ah, qu'est-ce que j'avais dit. Et donc, si vous voulez, l'inquisition qu'établit, c'est une coordination au niveau de l'État de l'activité courante des évêques. Et l'on va nommer deux grands inquisiteurs, l'un pour la Castille, l'autre pour l'Aragon. Je passe sur les détails, mais le premier grand inquisiteur général en 1483 pour l'Aragon, qui a été choisi sur une liste d'aptitude, eh bien, c'est Torquemada, prieur du couvent de dominicain de Ségovie, de Santa Cruz, et d'origine juive aussi, comme vient de le démontrer Béatrice Leroy, et qui a eu la main lourde. Mais cette inquisition n'est pas antisémite, comme on l'a dit. La réaction contre les juifs dans l'Espagne d'Isabelle la catholique, j'ai vu des documents, je connais assez bien le vieux chanoine, hélas, qui espérait, qui est le promoteur de la cause en béatification de la reine Isabelle la catholique, chanoine de Valladolid, qui a montré certains papiers. Ce qu'on reproche aux juifs, ce n'est pas d'être juifs, ce n'est pas racial. Ce qu'on leur reproche en 1492, c'est de pratiquer une religion qui est hérétique. C'est leur hérésie. Et non pas leur race. Et dans l'Espagne du XVIe siècle, on les suit bien, ceux qui se sont convertis auront parfois des ennuis, parce qu'il y a des enquêtes généalogiques, pour se méfier quand même des crypto-juifs, qui servent, faut pas l'oublier, de réseau d'espionnage par Bayonne, Rouen jusqu'à Amsterdam. Donc l'Espagne défend son État. Mais si l'on regarde la famille de Sainte-Thérèse, qui a eu un grand-père maternel juif qui a porté San Benito, qui a dû émigrer de Talavera à Avila, bon, si l'on regarde la famille de Sainte-Thérèse, eh bien, les gens, les juifs qui sont, ils ont parfois des procès pénibles, mais une fois que l'on reconnaît leur bonne foi comme catholique, ils sont en paix. Et il y a certains, j'ai suivi à travers Ségovie, bon nombre de ces chrétiens convertis qui feront une très belle carrière à la fois dans l'Église ou dans l'État au XVIIe siècle. Alors là, il y a le problème arabe. Et je dois dire que le problème des musulmans, des gens qui pratiquaient l'islam, qu'ils soient du reste d'origine ibérique ou qu'ils soient venus du Maghreb. Et là, c'est bien intéressant parce qu'il va avoir tous les essais de pastoral. J'y reviendrai en parlant de Talavera. Mais là, si vous voulez, si un juif, si des rabbins deviendront évêques sous les rois catholiques, si le judaïsme est compatible avec le catholicisme, l'histoire d'Espagne, de la fin du XVe jusqu'à l'expulsion de 1609, montre l'incompatibilité, je dis bien l'incompatibilité absolue de l'islam avec la religion catholique. Et il y a bien des gens qui devraient méditer sur cette expérience espagnole à l'heure actuelle en France. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait après avoir laissé les musulmans pratiquer leur religion? On a essayé de les convertir. Et ils vont se soulever, et à partir de 1501, on leur demande soit de partir vers le Maghreb, soit de rester, mais de se convertir. Et ils accepteront de se convertir, mais tout en pratiquant le Coran par-dessous. Et c'est là, si vous voulez, un hiatus dans l'unité religieuse qui va s'élargir au fur et à mesure qu'on avance dans le XVIe et qui sera résolu par l'expulsion drastique en 2 mois de 300 000 morisques en 1600. Une des plus belles opérations policières de l'histoire. Tiens. Et heureux, pour terminer, j'ai encore 5 petites minutes.
Oui,
pour terminer, je voudrais évoquer les grands chefs de cette Église. Et vous allez voir qu'ils le marquent, ils sont les symboles de l'évolution de l'Église espagnole. Au début, vous avez un cardinal qui est un mondain, qui a des maîtresses, qui a des enfants naturels. Il les appelle ses 3 péchés. Bon, mais qui a le sens du devoir de ce qu'est un évêque et qui va promouvoir, par l'intermédiaire des rois catholiques, 2 hautes figures de non seulement de l'Église espagnole, mais de la sainteté catholique. Alors le premier, c'est le fameux González de Mendoza. Pedro González de Mendoza, alors ses dates, lui, c'est le plus vieux du trio, 1428-1495. C'est le 4e fils. Les valises se détient quand on leur dit ça, mais bon, c'est la Salamanque, ça reste la grande université au XVIe siècle, même quand il y a eu la concurrence de Valladolid, d'Alcala et de quelques-uns. Et alors, c'est un grand lettré, et c'est lui qui, après avoir été fidèle à Henri IV, fidélité monarchique, va faire pencher toute une partie de la noblesse en faveur des rois catholiques. Et les Mendoza étaient implantés assez bien en Andalousie et va amener toute une clientèle de grands nobles du Sud, bien étudiés par Marie-Claude Gerbet, du reste, et qui vont consolider le pouvoir des rois catholiques. Alors, quelle a été la carrière de ce Guzmán? Il a fait une belle carrière, mais enfin, il a connu le travail de base. Il a été curé de Ita en 1448, archidiacre de Guadalajara, et puis il passe en 1452, donc assez jeune, à la cour de Jean II. Et ensuite, il va participer aux luttes dynastiques, et en 1473, il devient cardinal archevêque de Séville. Donc il n'a pas été promu par les rois catholiques. Il va favoriser l'accession des rois catholiques au pouvoir. Mais ce fin lettré est un fin guerrier aussi. Et c'est un des grands artisans de la lutte contre le Portugal. Il participera à quelques batailles, cuirassés, sabre au clair. Quand j'imagine, je vois ce Guzmán, j'imagine, vous savez, le portrait en cuirasse de Richelieu qui a été profané par les voyous en 68, mais qui montre bien l'idéal guerrier de ces évêques. Hein. Et au fond que la bataille, la guerre, c'est la forme la plus noble et la plus suprême de la croisade. Ensuite, donc, cardinal archevêque de Séville, il va promouvoir ses 2 successeurs dont je vais vous parler, mais il faut dire que c'est l'étendard de ce cardinal de Mendoza qui va flotter sur l'Alhambra lorsque l'Alhambra sera prise et que Grenade va être érigée en archidiocèse. Alors le deuxième il est tout différent, mais si vous voulez, pour nous montrer quel était le vivier des évêques en Espagne, eh bien, ils viennent de toutes les classes de la société. Alors qu'on a fait des études sur ce qu'étaient les évêques avant le Concordat de Bologne en 1516 et sur ce qu'ils étaient après, disons que petite noblesse, moyenne noblesse et haute noblesse, mais rares sont les gens qui viennent de couches plus humbles. Alors qu'en Espagne, les évêques, ça se recrute partout. Alors, ce Hernando de Talavera, on connaît mal sa naissance, il a dû naître entre 1430 et 1440, c'est un bâtard. C'est un bâtard qui a fait ses études à Salamanque, car son père naturel, celui qu'on peint pense que son père naturel était un Alvarez de Toledo, donc grande famille, ancêtre des Medina Sidonia, et qui était comte de Oropesa. Et sa mère, probablement, on a des indices très sérieux, était une juive. Bon. Alors, il va faire ses études à Salamanque, et à 30 ans, aux alentours de 30 ans, il rentre chez les Hieronymi, c'est-à-dire le grand ordre prestigieux. Mais, si vous voulez, le grand ordre qui s'est moins réformé au XVe siècle parce qu'il est très riche. Vous savez, c'est ce qui arrivera aux Cisterciens, ce qui est arrivé aux Cisterciens, je crois, quelques siècles avant. Ils sont partis dans le Charolais, ils ont suivi le bœuf, et à force de faire de l'élevage, ils sont très vite enrichis. Bien, les Hieronymites sont de magnifiques financiers. Lorsqu'il n'y a pas de juifs, ou lorsqu'il n'y aura plus de juifs, c'est eux qui vont servir de grands financiers à la monarchie espagnole. Et lui, qui est un saint, qui est un ascète, va jouer un rôle important, je simplifie, dans les finances des rois catholiques. Et du reste, j'ai étudié dans le Mage à Lucien Musset, le grand médiéviste, qui fut mon maître à Caen, le budget des rois catholiques. La Dero Quesada avait bien donné les postes, mais il a fait les calculs. Eh bien, à partir de 1580, le budget des rois catholiques, c'est à peu près 60% de bonus tous les ans. Bon, ce qui vous prouve qu'il était à l'aise. Je crois que Charras pourrait aller faire un tour dans les comptes des rois catholiques. Ça lui fait du bien. Bon, donc, il est spécialiste des finances et il va devenir le confesseur de la reine. Mais un vrai confesseur, il l'obligeait à se mettre à genoux. C'est pas un courtisan, Talavera. Et on va l'envoyer, lorsque Grenade est prise, ça va être le premier évêque puis archevêque de Grenade. Et là, sa pastorale est tout à fait, au sens noble du terme, est tout à fait intéressante. Il va obliger son clergé à apprendre l'arabe. Il va faire un catéchisme en arabe. Il va même faire des cantiques en langue vernaculaire, en castillan, en amansé, comme on disait à cette époque, pour quand même que les arabes, les nouveaux chrétiens musulmans, apprennent la langue espagnole. Et, si vous voulez, il va obtenir des conversions, mais doucement, lentement, il n'est pas facile de convertir en terre d'islam. Et là, il y a des témoignages de Talavera qui sont d'une brûlante actualité. Tel point quand même que, lors d'un voyage de Cisneros en 1506, Cisneros trouve, qui lui est un franciscain, hein, c'est pas un hieronymite, et il trouve que les conversions, ça va pas assez vite, et qu'il faut une manière plus forte. Et ce pauvre Talavera va être en but aux persécutions d'un homme sectaire, l'inquisiteur de Cordoue, qui s'appelait Lucero, à tel point que sa famille sera prise, on les accusera d'être converso, il sera sur le point d'être emprisonné, mais Cisneros, qui était un homme indépendant, le défendra, et il va mourir quelque temps après. Ensuite, j'en arrive à la dernière figure, c'est la haute figure du cardinal de Cisneros. Alors, lui, comme je vous l'ai dit, c'est aussi un franciscain. Il sort d'une famille de nobles qui s'appelle Jiménez de Cisneros. Il a fait ses études à Salamanque. Il a eu du côté de Singüenza, toujours dans la clientèle des Mendoza, il a eu des archidiaconés, des archiprêtrés. Et on pensait qu'il allait faire carrière. Et puis, à 30 ans, il rentre brutalement chez les franciscains. Et il faudra aller le rechercher chez les franciscains pour qu'il accepte, à la mort de Talavera, d'être le confesseur de la reine et d'être son conseiller. Et alors, il va d'abord, si vous voulez, sa grande idée, c'est la réforme des études théologiques, mais d'une université au goût du jour, et c'est l'idée de fonder l'université d'Alcalá de Henares, qui est de 1400, son idée de 1498 et va être réalisée en 1506. Alors, il va d'abord faire coexister, mais littéralement coexister, les courants thomistes, scotistes et nominalistes qui s'affrontaient dans les autres universités. Il va développer aussi l'enseignement de la grammaire, et c'est Antonio de Nebrija qui, dans les années 1514, va donner la première grammaire en castillan. Mais cette grammaire, c'est pour étudier les textes sacrés. Et à l'université d'Alcalá, on étudie le latin, le grec, bien entendu, avec la théologie, mais on étudie l'hébreu, on étudie le chaldéen. Et les frères coronels viendront comme visiting professeurs, vous m'excuserez cet anglicisme, à l'université d'Alcalá, de même que Nebrija, qui enseignait à Salamanque, viendra à Alcalá pour collaborer à cette grande œuvre de Cisneros, qu'est la Bible polyglotte. Et qui a failli lui valoir des ennuis, parce que faire coexister dans une même édition, qui paraîtra peu avant sa mort, en 1516, faire coexister la version de la Septante de la Vulgate, c'est-à-dire le grec et le latin, avec une version hébreu qu'il pensait la meilleure car d'origine et qui avait été mise au point à partir des éditions de la Bible des rabbins espagnols du XVe siècle, dans l'atmosphère qui a régné après l'expulsion des Juifs, c'était un peu audacieux, ça faisait presque œuvre d'hérétique. Mais il a tenu le coup et cette expérience de la Bible polyglotte a été réussie sur le plan universitaire. Ça a été un échec au point de vue publicité parce que on a tué l'existence de cette Bible polyglotte et elle sera redécouverte à la fin du XVIIe siècle. Enfin, quand on étudie les universitaires, savait qu'elle existait. Je reviens à l'université, quand on regarde la fondation d'Alcalá de Henares et les statuts des professeurs qui élisaient leur recteur sans influence du gouvernement. Il y avait un modérateur représentant la couronne, ce qui était normal, mais c'est le recteur qui avait plein pouvoir. Et les recteurs, à l'heure actuelle en Espagne, sont élus sur la tradition de Cisneros. Ça donne du reste de très belles batailles politiques quand il y a l'élection d'un recteur. Il faudrait peut-être, ce serait une coutume peut-être à suivre ou à remettre en... N'est-ce pas, monsieur ? Je parle sous l'autorité d'anciens et peut-être de futurs recteurs. Et donc, il a eu une œuvre universitaire et aussi il a eu une œuvre politique. Il a été, après la mort d'Isabelle la Catholique, en 1504, il a été le conseiller de Ferdinand. Là, nous sortons du religieux pour tomber dans le politique. Il a eu faire face à des troubles de nobles. Et à tel point qu'à la mort de Ferdinand en 1516, c'est lui qui sera le régent. Mais il mourra peu après et Charles Quint mettait le pied en Espagne en 1517 en Asturie quand Cisneros quittait l'Espagne pour l'éternité, j'espère. Et j'en arrive à ma conclusion. Les rois catholiques ont systématisé et amplifié le mouvement de réforme religieuse qui s'est développé tout au fond du XVe siècle. Et je crois que à ce qui était pour eux l'hérésie, et ce qui est toujours l'hérésie, c'est-à-dire pour les catholiques, c'est-à-dire la religion islamique, la religion judaïque, je parle des dogmes, non pas des hommes, et c'était comme ça que pensaient les maîtres de Salamanque et d'Alcalá, je crois que face aux assauts de l'islam, face aussi aux assauts du judaïsme, dans l'Espagne, eh bien, ils ont donné une réponse, et la réponse avec l'épithète avec une épithète qui nous est chère, une réponse de catholique. J'ai fini.
Mon cher collègue, au nom de tous ceux qui sont ici présents
je voudrais vous remercier et vous féliciter tout à la fois. Vous avez finalement, et c'est ce que j'espérais avant de vous présenter, apporté beaucoup de nouveaux. Votre communication est en quelque sorte une magnifique préface aux événements de 1492. Vous nous avez expliqué dans quel milieu, à la fois intellectuel, religieux et même militaire, se sont préparés tous ces événements qui vont fleurir après 1492, n'est-ce pas ? Vraiment, je vous remercie très sincèrement. Vous nous avez donné un tableau complet des problèmes espagnols au milieu du 15e et à la fin du 15e siècle. Vos études sont très percutantes, très originales, et je vous félicite de tout cœur. Mais ne vous sauvez pas, car nous allons tout de même entamer une petite discussion qui est de tradition dans tous les colloques, et je passerai la parole à ceux qui désirent présenter des observations ou faire des réflexions tout simplement. Je vous en prie. Si vous voulez annoncer votre nom et votre fonction.
Ah non, il date avant. Le professeur S répondrait, qui est spécialiste du Moyen-Âge, répondrait il y a quoi, mais disons, je crois que c'est un mot qui est présent dès le XIe siècle dans la lutte contre les infidèles, et peut-être même avant. En tout cas, dans les textes espagnols, on a des textes du XIe siècle qui parlent de la croisade. Et tout l'idéal des ordres militaires fondés au XIIe, avec le symbole de la grande croix, croix potencée ou croix allongée, ça symbolise ce mot de croisade. La cruzada, ça c'est...
Je peux répondre
en
un instant, monsieur. Je ne suis pas tout à fait spécialiste. Le mot commun, n'est-ce pas, il s'applique pas seulement aux milieux, aux musulmans, il y a les croisades de construction cathédrale. Dès que l'on prend la croix pour une mission, c'est effectivement les croisades en Orient, pour la conquête de Jérusalem, le mot est resté commun en même temps que d'autres. On parle de grand voyage, de pèlerinage, et l'on parle plus volontiers, n'est-ce pas, de pèlerins armés que des croisés. Enfin, le mot est là, il n'y a aucun doute, et il recouvre le continu d'action souvent fort diverse.
Merci. Ce qui m'a étonné, c'est que vous ne parliez pas beaucoup des dominicains, finalement. Vous avez insisté sur les franciscains, sur les bénédictins, les dominicains. Et vous avez parlé des évêques à propos de l'Inquisition. Il ne faut tout de même pas oublier que l'Inquisition a été confiée aux dominicains dès la fin du XIIIe siècle, n'est-ce pas, même peut-être avant. Alors, est-ce que... il y a eu changement, je dirais. Vous voyez, je vous pose une question plus juridique qu'historique, finalement. Est-ce qu'il y a une nouveauté complète dans l'Inquisition à partir des années 1492 et suivantes ?
Oui, alors, si vous voulez, d'abord, pour les Dominicains ont suivi le mouvement de réforme. Mais ils sont moins significatifs dans le fait que chez eux, il n'y aura pas eu le phénomène des calzados y descalzados, c'est-à-dire qui garderont l'unité de l'ordre. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas le phénomène d'observant et conventuel. Ou, disons que observant et conventuel chez eux resteront unis. Bon, la nouveauté de l'Inquisition dans la procédure, par rapport au manuel de l'Inquisiteur que l'on connaît bien du temps de la croisade des Albigeois, c'est que c'est d'abord le secret absolu de l'instruction. C'est ensuite le secret, la nouveauté, c'est le secret des témoignages qui peuvent être réfutés par celui qui est accusé, mais il ne connaît pas ses accusateurs, ou il ne les connaît pas directement. Mais en fait, J'ai regardé les manuels de procédure des inquisiteurs espagnols. Le haut criminel, ils ont été, je crois, les modèles, en partie les modèles, de l'ordonnance de Villers-Cotterêts sur l'instruction des procès criminels en France. Car quand on regarde l'ordonnance de Villers-Cotterêts, au criminel, elle est au fond dans le style inquisitorial. Mais, et De Dieu l'a bien montré dans son livre sur l'administration de la foi, qui est paru il y a maintenant 4 ans, c'est que même si l'inquisition est dure, je ne vais pas la faire tendre, elle respecte quand même les droits de la défense et le droit des accusés, à tel point que dès la seconde moitié du XVIe siècle, par exemple, les gens qui étaient accusés de folie étaient plus considérés comme des cas pathologiques que comme des hérétiques. Et là, c'est passionnant d'étudier les procès à travers le XVIe siècle, parce qu'au fond, on s'aperçoit que les inquisiteurs espagnols, il y avait des brutes parmi eux, mais il y avait aussi de femmes psychologues. Voilà.
Oui, la grande différence avec la France, c'est que la France a changé complètement d'orientation pendant le XVIe siècle, n'est-ce pas? Puisque l'Inquisition, qui était aux mains donc des Dominicains, est passée sous la houlette des juristes laïcs, ce sont les juges laïcs, et ils n'ont pas été beaucoup plus doux que les inquisiteurs dominicains, loin de là. Y a-t-il d'autres questions, monsieur, je vous en prie, attendez.
Ça a été ça a été fait. Il y a Jaime Contreras qui, dans le catalogue, j'ai pas amené là, mais le catalogue de l'Inquisition, il y a une dizaine d'années, il a fait une courbe. Et alors là, je peux vous dire qu'il y a les sommets forts de la courbe, c'est en 1492. Je pense, parce qu'on n'a pas tout, hein, il y a des lacunes dans les archives, mais le total des condamnés à mort de l'Inquisition à travers toute son histoire, ça ne dépasse pas 50 000 personnes. Alors vous avez, point fort, en 1492, sans doute plusieurs milliers, et c'est difficile parce qu'il y a des familles qui ont camouflé. Hein. Vous avez au temps de Philippe II, alors ça, entre 1560 et 1580, alors là, il y a eu et contre les luthériens, et contre les protestants, ça, ils ont empêché le virus protestant de s'épanouir en Espagne. Il y a eu une grande lutte contre les judaïsants, mais aussi les détournements sexuels. C'est ce qu'on a démontré les études récentes, que l'Inquisition, au temps de Philippe II, elle surveille plus la polygamie chez les ecclésiastiques, au fond, que les hérésies, parce que l'hérésie est, au fond, très bien cadrée en Espagne. Hein. Dès qu'un hérétique Charles Quint, la cour de Charles Quint a été épurée. Bon. Alors, vous avez autant de Philippe II, ça, l'Inquisition s'est épanouie. Et puis, après, au XVIIe siècle, vous avez, à la chute d'Olivares en 1643, un regain de l'Inquisition, mais contre les marins portugais, qui avaient été les soutiens financiers d'Olivares. Mais à partir de 1650, il s'agit plus souvent de censure littéraire que de prise de corps. Et au fond, l'Inquisition a été bien moins violente sur 3 siècles que nos guerres de religion. Garde religion, du reste, je crois que cette inquisition a empêché les guerres de religion en Espagne. Et qu'à l'heure actuelle, il y a un renouveau. L'inquisition, on ne dit pas qu'elle est adorée, mais elle est étudiée avec sérénité. C'est un rouage de l'État. Ça a été la police des mœurs, la police religieuse. Et puis aussi, ça a contribué à l'ordre public. Et il ne faut pas oublier quand même que l'Espagne était à 2 pas des terres infidèles. Hein. C'est quand même, vu son rôle en Méditerranée. Voilà.
Est-ce que l'on veut, dans les 50 000 que vous avez citées,
Ah oui, on a les répartitions. Alors, alors si vous voulez, je fais ça de tête, hein, mais proportion, pour l'Inquisition de Castille a des postes différents de l'Inquisition d'Aragon. Je m'explique, en Castille, vous avez prédominance des judaïsants ou des hérésies confinant à la judaïsation au XVIe siècle. Ensuite, vous avez les luthériens, ça c'est aux alentours de 1540-1550. Et puis alors, après, vous avez les blasphèmes, les propos contre l'Inquisition et les détournements sexuels. Détournements sexuels, du reste, ça représente 3% des procès, c'est pas tellement intéressant. Je laisse ça, on a des professionnels de l'érotisme dans les historiens, parce qu'ils sont impuissants à faire autre chose, alors là, on leur laisse, ils ont quelques procès. Bon. En Aragon, qui est une grande terre morisque, à cause de Valence et à cause de la région de Calatayud, au sud de l'Aragon, les grands procès sont contre les morisques. Ensuite, il y a un peu de judaïsants à cause des Chouetas, par exemple, de Majorque. Et vous avez ensuite les mêmes proportions, paroles blasphématoires, paroles contre l'Inquisition et déviations sexuelles. Voilà.
Roger.
Chose m'a frappé, c'est ce que vous soulignez chez cet auteur, une sorte de synthèse entre le thomisme, le scotisme, le nominalisme. Je voudrais vous demander si vous voyez là une sorte de richesse, ou au contraire une altération, un appauvrissement de la scolastique orthodoxe, disons, du XIIIe siècle.
Je vous réponds que pour les thomistes convaincus, c'est une adultération. Mais Cisneros était plus un homme d'État qu'un théologien. Il a vu ça de l'extérieur et au fond, il était bien au-dessus des querelles de ses collègues. Je crois qu'il n'aimait pas beaucoup quand même la scolastique. Mais oui, il faut voir comme... ça a été un administrateur, un homme qui avait quand même le respect de la liberté, il l'a montré face à face à Talavera, et qu'il était bien au-dessus de ses querelles de théologien. Mais, en revanche, il était pour l'enseignement de la théologie. Du point de vue du thomisme, ce n'était pas un thomiste pur, il a adultéré. Je crois... Je vous satisfais pour la réponse. Mais j'aime bien, vous aurez vu, j'aime bien Cisneros quand même. Même si c'est pas un parfait thomiste.
Nous avons une petite question. Je voulais vous demander si les histoires de. À propos de l'expulsion des Juifs, est-ce que dans les raisons de l'expulsion des Juifs, il n'y aurait pas par hasard. Le fait que souvent on avait constaté des aptitudes à singer le catholicisme qui finalement recouvrait une persistance de leur pratique judaïque. D'autre part, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi quelques, comment dirais-je, règlements de compte en somme quant à l'attitude des Juifs, parfois au moment de la reconquête, où un certain nombre de portes de vie ont été ouvertes fâcheusement aux Arabes?
Bon, alors il y a trois domaines à faire. D'abord, les gens qui ont contribué à l'expulsion des Juifs, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait parmi eux d'anciens convertis. Donc, vous avez totalement raison de dire que parfois dans une même famille, vous avez un évêque et un rabbin. Et donc, évidemment, ils considèrent que le judaïsé s'est singé en la caricaturant la religion catholique. Car ils ont bien, parce qu'ils ont l'impression que les uns comme les autres sont des gens du livre, mais qu'ils interprètent le livre de façon différente.
Quant aux Juifs, à la présence des Juifs, traîtres, royaume de Grenade, il n'y en a pas eu beaucoup parce que le royaume de Grenade est en crise économique latente depuis 1460 et dynastique aussi, et les Juifs sont partis ailleurs faire leurs affaires, en particulier au Portugal, parce que les Portugais astucieusement ont détourné les courants de l'or du Soudan vers Lisbonne à cette époque-là. Bon, et puis ensuite, les Juifs ont été, comme je l'ai dit, honnis par ce qu'ils représentaient. Ils représentaient une puissance financière. J'ai le recensement de 1510 des chrétiens convertis d'origine juive à Ségovie, mais enfin, ça donne quand même leur origine. Eh bien, vous avez des gens de droit, vous avez des joailliers, des orfèvres, et surtout des percepteurs d'Alcabala. Et ils ont été vus comme des percepteurs. Et alors, souvent, la noblesse a joué des morisques, là où elle avait des morisques dans ses terres, comme à Valence, a joué des morisques contre les Juifs qui venaient percevoir l'impôt sur leurs terres. C'est très complexe là-dedans. Par exemple, à Ségovie, les Juifs sont dans la main du chapitre. Or, il y a eu des conflits de pouvoir avec les nobles lignages. Et qu'est-ce que font les nobles lignages quand il y a des émeutes? C'est de lancer, par exemple, les quarts d'heure de laine contre le quartier juif, ce qu'on appelle le Barrio Nuevo, après 1492, de Ségovie. Donc, autant le problème est complexe. J'ai essayé de le simplifier un peu, mais il y a des variétés territoriales. Mais toujours est-il ça, l'histoire récente l'a bien montré, les gens d'origine juive ont bien contribué à leur expulsion en 1492.